Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'Arenage.com. Nicolas Ducharme, je vous parle ce 7 avril, au lendemain du début, premier match de la série entre les Canadiens et les Sabres de Buffalo. Match qui a été, on pourrait dire, quand même assez séance unique, victoire des Sabres de Buffalo lors de cette première rencontre. Donc, on commence avec une prise du côté des Canadiens. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission avec les collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui vont être avec moi aujourd'hui. Donc, on va parler de ça aussi. Si vous êtes couché tard hier, ben peut-être que vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé du côté de Vegas, parce que les Ducks d'Anaheim qui ont égalé la série, c'est maintenant 1-1 et les Ducks, je joue du hockey les Ducks. Honnêtement, si vous pouvez regarder là, présentement les Ducks, il n'y a aucune des deux rencontres que... Son frère, là, que les Golden Knights méritaient. Ils ont gagné la première, mais là, c'est 1-1. Tu sais, tu te dis, là, tu te poses la question, est-ce que les Ducks, vraiment, sont surprenants, sont en train de prendre leur envol, pour faire un mauvais jeu de mots, sont en train de prendre leur envol après leur victoire contre les Oilers d'Edmonton? Peut-être. En même temps, ça reste deux équipes de la section Pacifique. On sait ce que la section Pacifique a eu l'air cette année. Donc, tu te demandes après ça, si les Ducks continuent, vont gagner, affronte le gagnant de la série entre l'Avalanche et le Wild, ça va ressembler à quoi? Parce que présentement, l'Avalanche est en train de... J'ose pas dire donner une leçon de hockey au Wild, parce que ça serait un peu fort, mais les deux matchs de cette série-là ont été clairement l'avantage du Colorado. Le premier, c'était un festival offensif où le Wild a pas mal compris qu'il pouvait pas y aller coup contre coup avec l'Avalanche. Puis le dernier match, victoire aussi du Colorado. Puis là, ça a été un peu plus clair comme victoire, un peu plus, je vais dire, stratégique, là, où en suivant le système, ça, c'est certain. Puis ça se poursuit ce soir, les séries éliminatoires, en ce jeudi avec la suite de la série entre les Hurricanes et les Flyers. Les Flyers ont mieux paru dans le deuxième match, mais quand même, victoire des Hurricanes, but gagnant de Taylor Hall. Logan Stankoven aussi qui fonctionne à pleine vitesse dans cette série-là. Quand même intéressant, c'est deux gars qu'on a eu dans les transactions qui ont impliqué Mikko Rantanen quand on a été le chercher chez l'Avalanche, quand on l'a échangé chez les Stars. Mikko Rantanen qui est en vacances présentement. Tandis que les deux, Stankoven, oui, et Hall qui poursuivent leur chemin. Donc, ça se poursuit dans leur cas. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi de ce qui s'est passé. La loterie du repêchage des Maple Leafs qui vont finalement repêcher premier. On va parler de ça parce qu'on sait ce qui s'est passé à Toronto avec la nomination de John Shaka, Matt Sundin aussi qui s'ajoute. Ça a brassé quand même. Et là, deux jours plus tard, tu reçois le premier choix de repêchage. Ça change probablement ta stratégie de beaucoup sur comment tu vas aiguiller ton équipe dans les prochaines années. On parlait de reconstruction, réinitialisation. Là, si tu ajoutes un Gavin McKenna, ben tout change. Donc, on va parler de ça aujourd'hui en fin d'émission avec mes collègues Messieurs Chaumont et Lepage. Mais avant de se lancer, ben je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café. Café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous pour être certain de ne pas rater un balado. On est jeudi, donc balado aujourd'hui. Le prochain va aller au début de la semaine prochaine, mais c'est ça, avec les séries éliminatoires, les gars sont sur la route. Donc, quand j'ai le temps de les attraper, ben let's go les gars, on fait un balado, on se jase comme on va faire ce matin dans quelques instants. Et si vous voulez nous voir en image, peut-être voir les gars, ce qu'on va leur parler de l'aéroport ou peu importe, ben on est disponible en vidéo sur Spotify et disponible sur le site dlnh.com. Alors, on lance cet épisode. Je les accueille avec moi, les deux, en direct de Buffalo. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut GF.
Chaumont.
J'ai dit quoi, Chaumont, hein?
Jean-François Chaumont.
Ça sonnait croche, mais c'est pas juste en direct de Buffalo, c'est en direct du même étage.
Ouais, ben,
quatre chambres de différence.
Ça aurait été spectaculaire que les gens aient accès au behind the scenes là, avant le début du podcast. Moi qui se promène d'une chambre à l'autre, qui apparaît dans un écran, qui disparaît, ça
des fois, j'ai de la misère avec l'éclairage.
Ouais, ben, c'est ça. On a envoyé Guillaume arranger l'éclairage à M. Chaumont parce que. T'es pas bon. T'es vraiment...
Non, c'est juste parce que j'ai plus de soleil dans ma chambre. Tu sais, Buffalo est quand même une ville radieuse. Puis j'ai tellement passé d'années dans un Marriott que j'ai priorité soleil par rapport à Guillaume. Donc, c'est simplement pour ça.
Mais on a la même vue sur l'entrée de l'autoroute. C'est vraiment magnifique. Disons qu'entre le dernier podcast et celui-là, le dernier, je regardais le canal avec les palmiers. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, je regarde d'un mur. Puis à ma droite, ben, il y a l'entrée d'autoroute juste à côté de l'aréna des Sabres. Donc, c'est pas paradisiaque, mais au niveau ambiance, au niveau intérêt des gens, on sent vraiment que la ville vibre au rythme des Sabres pour la deuxième ronde.
Le septième match à Tampa, les gars, là, c'était l'ambiance de... va à l'église le dimanche, là. Même le gospel le dimanche a un petit plus d'ambiance que le septième à Tampa. Puis Buffalo, c'est quand même rassurant. Tu sais, ce matin, j'ai été me chercher un petit Tim Hortons. Ce qui a le fun, c'est que tu sais qu'il n'y aura jamais trop de monde dans le centre-ville. Il n'y a jamais trop de monde non plus au Tim Hortons. L'attente, ça va bien, ça roule. Le tramway va toujours très bien. Renaud Lavoie s'en ennuie. On lui souhaite d'ailleurs un très, très bon rétablissement à Renaud. Mais qui manque Buffalo, c'est un clin d'œil de la vie, je pense.
pas pro-tramway, hein, Renaud, si j'ai bien compris de la façon qu'il expliquait ça.
C'est Buffalo, ce qui a achevé la ville, mais ça n'a pas achevé les Sabres.
Non, il y a quand même beaucoup de Montréalais aussi hein, sur place. Je pense que vous en avez croisé quelques heures.
Montréalais ou Canadiens, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la région de Toronto. Le Canadien a quand même une base de partisans en Ontario. Puis, tu sais, Buffalo est à quoi? Le centre-ville de Buffalo est à 20 minutes de la frontière. Donc, c'est assez accessible pour nos amis canadiens qui veulent porter du rouge dans les estrades. Il y en a quand même beaucoup. On en a vu au premier match. Ça fait une bonne ambiance. Les deux bases de partisans qui se relance, là, c'est toujours... ça anime un peu le spectacle.
Pour ne pas les nommer, là, Nick, moi j'ai deux amis, là, les frères Bouchard, dont Maxime qui pose les publicités sur les bandes entre les périodes au Centre Bell. Eux, ils ont décidé de rouler Montréal-Buffalo dans la journée même, puis revenir le soir même.
Ah, ça se fait.
Acheter deux billets avec l'essence, pas de nuit d'hôtel si tu partages le volant. Ça revient probablement moins cher qu'un match au Centre Bell.
Hey, imagine comment ça va se faire. Bien pas... en tramway, mais en TGV éventuellement. Donc,
d'ici 2040, ça va être
on verra si on le verra bien de notre vivant, mais bon, c'est le plan pour l'instant. On disait des gens de Montréal puis tous les Québécois qui se sont déplacés pour aller voir ça. Les attentes étaient probablement pas mal plus grandes que ce que la performance que les Canadiens étaient en mesure d'offrir hier. Les gars, faux départ ou claque dans le visage par rapport à ce que les Sabres sont comme équipe par rapport au Lightning?
Ben, faux départ, je suis pas persuadé. Peut-être retour à la réalité aussi. Ça, c'est plus le point que je trouve important. Les Sabres ont une machine de hockey encore plus dangereuse que celle du Lightning. Sans rien enlever au Lightning, le Lightning était une des 10 meilleures équipes de la Ligue nationale facilement. Mais les Sabres, depuis l'arrivée de Jarmo Kekäläinen à la mi-décembre, trônent au sommet de la Ligue nationale. Donc, c'est une équipe qui a également énormément de profondeur. Puis, on en parlait avant le début de la série. La grande différence, c'est la ligne bleue des Sabres. Un top 4 à faire rêver, des défenseurs très mobiles. Alexandre Carrier, Philippe Dano, Nick Suzuki, hier après le match, il le disait. Si tu perds la rondelle, c'est rapidement les Sabres qui reviennent à 4 contre 3, à 3 contre 2. Puis en zone offensive, ça bouge énormément. Les deux défenseurs sont impliqués dans l'attaque. Ça peut devenir un tourbillon. Ça devient difficile à contrer. Puis Guillaume l'écrivait avant le début de la série, il y a le petit Zach Benson, le numéro 6, qui est fatigant, mais c'est un bon joueur de hockey aussi. Le troisième trio des Sabres, celui de Norris, Doan, Benson, a fait une grande différence. T'as Jordan Greenway qui marque. Ça, c'est tout des éléments qu'on ne voyait pas contre le Lightning. L'attaque secondaire des Sabres a frappé fort au premier match, tandis que Tampa, à part le dernier, où tu avais le trio de Dominic James puis Bjorkstrand qui avait connu un bon match, c'était très, très tranquille, point de vue troisième et quatrième trio du côté de Tampa.
Avez-vous l'impression aussi qu'il y avait un... Tu parlais de retour sur Terre et tout ça. J'ai entendu dans les commentaires, peut-être pas chez les Canadiens, mais à travers tout le monde, de dire les Canadiens, les jeunes Canadiens en reconstruction viennent de gagner une première série. Le reste, c'est du gravy. Puis avez-vous l'impression que cette attitude-là est peut-être une petite affaire... Je veux pas dire imprégnée dans le vestiaire, mais... il y a ce risque-là qu'on fasse, ben écoute, au moins on a gagné de quoi, on avance comme organisation, au lieu d'être tout de suite focus sur cette série-là, sur les Sabres, puis sur ce qui s'en vient pour, tu sais, l'objectif au final, peu importe l'équipe, peu importe ton statut de reconstruction, de vétéran, c'est la Coupe Stanley, là.
Ben, non, je pense pas qu'il y a ce sentiment-là dans le vestiaire des Canadiens, là. Par contre, je suis prêt à leur donner que le niveau d'émotion entre un match 7 et le premier match d'une série de deuxième tour, ça devait être... la différence devait être difficile à gérer. Je sais pas pour toi, GF, mais même moi, au match 7, je veux dire, il y avait beaucoup d'incertitudes. Nous, on ne savait pas si on revenait à Montréal, si on allait à Buffalo. Il y a comme beaucoup de choses qui viennent ajouter à l'émotion, qui viennent ajouter au niveau de nervosité ou au niveau d'enthousiasme que tu peux avoir pour un match. Là, tu reviens au premier match d'une série. C'est pas une question de vie ou de mort. Si tu l'échappes, c'est pas si grave. Tu retournes à Montréal éventuellement. Tu sais, je pense que ce sont des humains aussi. Là. Je pense que le changement, la différence en termes de niveau d'émotion a été assez grande. Puis le Canadien, ben, quand tu regardes ça de façon circonstancielle, là, le Canadien perd 2-0 après quoi? 10 minutes dans ce match-là?
13 minutes.
Déjà, si tu amorces le match puis tu sens que tu as moins d'émotion qu'au match 7 que tu viens de disputer il y a deux jours, ben là, tu es en retard 2-0 après 13 minutes. Ça te coupe les jambes un peu. Mais le Canadien, j'ai trouvé, tu sais, avec le but de Nick Suzuki en fin de première période, a quand même réussi à se tenir dans le coup un peu. Mais je pense que.
Ben, on n'a pas réussi à construire là-dessus. Ça aurait dû te lancer pour la deuxième période.
Non, la deuxième période a été la pire période du Canadien. Mais tu parlais. Guillaume, Nick, vous parliez de différence d'émotion. Moi, j'ai remarqué une différence chez Guillaume. Il était beaucoup plus grognon le matin d'un premier match, d'un deuxième tour que le septième match, où là, c'est l'excitation. Guillaume voulait partir à telle heure, ne voulait pas déroger de son heure de départ. Donc, tu sais, il faut que tu rechanges les habitudes.
Parce que on loue un auto pour nous deux, mais ça devient vite un autobus pour tous les collègues. Puis là, il faut s'adapter à l'horaire des collègues. Oh, moi, j'adore ça. J'adore vraiment ça.
Ouais, c'est même pas moi, en plus, qui avait changé l'heure. Mais ça, on va fermer la parenthèse. Là. On s'écarte un petit peu trop. Mais tu sais, il y a d'autres réalités aussi dans ce...
Les gars, ils spinent. Il n'y a personne qui comprend. Même moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez.
Mais tu sais, dans sa première fois aussi, depuis le début des séries, que le CH se retrouvait avec un retard de 3 buts. Ouais. Ça a toujours été des matchs hyper serrés contre le Lightning. Les 3 premières rencontres qui se terminaient en prolongation. Mais tu sais, oui, le CH peut avoir un sentiment de devoir accompli étant donné qu'ils ont franchi le premier tour. Mais ils veulent poursuivre la route. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. C'est la même histoire du côté des Sabres. Rasmus Dahlin a attendu 8 ans avant de jouer un match en série. Même chose pour Tage Thompson. C'est une jeune équipe. C'est deux équipes qui sortent de reconstruction. Une reconstruction éternelle. Tu sais, c'est le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, à peu près, les Sabres de Buffalo, tellement que ça a été long. Le CH, une reconstruction un petit peu plus rapide, mais c'est le changement de la garde dans la division Atlantique. Deux équipes qui veulent pousser, mais ça va être une série complètement différente. Moi, j'ai hâte de voir le deuxième match. C'est là aussi, tu sais, est-ce qu'il va y avoir des confrontations différentes? Martin Saint-Louis a été très actif dans ses décisions. A sorti Brendan Gallagher, a sorti des Jaden Struble, a fait confiance à Joseph Veleno, a fait confiance à Herbert Jacquard pour le premier match. Est-ce qu'on va remodeler les trios? Il faut surtout, ça, je suis convaincu qu'on va en parler, mais il faut trouver une solution pour réanimer Cole Caulfield.
Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Martin Saint-Louis, dans son presse, a parlé beaucoup de la malchance sur le premier but des Sabres. Lane Hutson qui accroche ses patins. Puis il est revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Mais moi, je regardais la première période, encore plus la deuxième période. Puis je trouve pas que c'est... Oui, c'était une malchance qui a fait que tu pars en arrière puis tout ça. Mais même à ça, la confrontation, surtout que Lindy Ruff... C'est pas un gars de confrontation tant que ça, les trios, là, mais les confrontations, peu importe qui était sur la glace pour les Sabres, il y avait une bonne différence dans la structure par rapport à ce qu'on offrait aux Canadiens. Les Canadiens, là, soudainement, là, je veux dire, combien de fois on a été bourdonnés en avant du filet d'Alex Lyon là, hier soir? Là? C'était pas une ruche, là. C'était calme, là. C'était très, très, très calme. Mais, jamais on a vu ça s'approcher.
Je dirais ça beaucoup plus que pendant la série contre le Lightning.
Mais quand il y a des ouvertures, il y en a remarqué, plus. Ça va être un jeu.
Ce que j'ai remarqué, c'est que t'sais, dans la série contre Lightning, il y avait quelques présences dans un match où les équipes d'un bord et de l'autre là, étaient capables de s'installer et de bourdonner. On exclut le match 7 où le Lightning a complètement dominé la deuxième. Là, mais hier, c'était d'un côté. Après ça, on allait de l'autre. Moi, j'ai quand même trouvé que le Canadien a réussi à bourdonner. Je suis quand même d'accord avec...
Pas pour donner, mais vraiment nuire à Alex Lyon. C'est une chose de tourner autour du pot, là, mais d'aller...
Il a fait quand même des gros arrêts, Alex Lyon. En première période, il a fait un arrêt sur Philippe Danault à bout portant quand c'était 1-0 ou 2-0, je me souviens plus exactement.
En troisième, il y a eu contre Ivan Demidov. Mais ouais, Lyon n'a pas eu à voler un match, là, loin de là.
Non, il a fait les arrêts importants. Il a fait les arrêts importants. J'accorde pas tant d'importance à ce match-là parce que je me dis il y a trop d'éléments externes qui viennent affecter le rendement du Canadien. Je pense que les Sabres, ça fait 5 jours qu'ils ont pu... Tu sais, Lindy Ruff le disait, la pause, ça nous a permis de, un, savourer la victoire pendant une journée
Décanté, ouais.
Fermer
surtout,
le livre.
Surtout que tu es dans la région de Niagara Falls, là, décanté, ça se fait beaucoup dans cette région-là. Là.
Mais non, mais tu sais, on a eu le temps de fermer le livre, de tourner la page. On est rendu en deuxième ronde. On se prépare pendant 2-3 jours pour le premier match. On est devant nos partisans. On les retrouve après avoir éliminé les Bruins. C'est le premier match de deuxième ronde depuis 2007, je crois, ici. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que, oui, c'était une tournade au début. Puis, je suis quand même d'accord de dire, ben le premier but, Lane Hudson s'enfarge dans la bande. On a vu ça, quoi? On n'a pas vu ça souvent cette saison. Après ça, le but en avantage numérique, le premier avantage numérique des Sabres a été épouvantable. Puis là, je me disais, bon, ben, c'est un avantage numérique qui fonctionnait à 4% au premier tour. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et là, le deuxième avantage numérique, ben, t'as un tir qui est comme bloqué devant le filet. Ça rebondit sur deux patins. On réussit du côté des Sabres à la reprendre. Belle passe de Zach Benson, mais tu regardes ça, puis ces deux buts-là, c'est ça qui a creusé la tombe du Canadien. Puis je considère pas nécessairement que c'était une grande domination des Sabres qui a mené à ces deux buts-là. Après ça, peut-être ça affecte le moral des Canadiens, puis les Sabres sont plus en confiance et tout ça. Mais pour le reste, je pense pas qu'on peut tirer de grandes leçons de ce match-là. Je pense que c'est circonstanciel. Après deux matchs, après trois matchs, si c'est la même chose, bien là, on dira les Sabres sont simplement trop forts pour le Canadien.
Mais quand vous êtes allé jaser avec Lindy Ruff après le match, il a dit... Je pense pas qu'on a donné. On a eu un bon match.
Non.
Lui-même, ils l'ont dit. Il y a pas de match. Fait qu'il y a clairement un, deux niveaux supplémentaires que les Sabres peuvent offrir aussi dans cette saison-là, dans cette série-là. Autant pour les Canadiens que c'était atypique. Même pour les Sabres, c'était atypique aussi comme setup, comme environnement où on vient de gagner une série. Là. Comme tu l'as dit, c'était pas arrivé depuis 2007. Donc, il y a d'autres choses. J'ai hâte d'avoir le coaching aussi de Lindy Ruff. Il y avait une option qui s'offrait à Martin Saint-Louis dans ce match-là quand c'est tombé 4-1 à ce moment-là. 4-1 après le but de Bowen Byram. On aurait pu retirer Jakob Dobesch. Je veux dire, les Sabres l'ont fait dans l'autre série. On a retiré Juko-Pekka Luukkonen. On a fait entrer Alex Lyon. Juste pour un peu fouetter les Canadiens, on aurait pu retirer Dobesch. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus en série, lui donner un break. Il vient de connaître une grosse série contre le Lightning. Martin Saint-Louis ne l'a pas fait. Puis Dobesch a eu une deuxième portion de match très bonne, à mon avis, très, très bonne. À quel point vous pensez pour Dobesch a été important à ça? Pour un gardien qui, on le sait comment il est, là, c'est un émotif, c'est un gars qui réagit. De ne pas l'avoir tiré, est-ce que c'était la bonne décision selon vous? Puis même si peut-être qu'il aurait profité d'un break.
C'était possible de se poser la question, mais au niveau de sa confiance, je pense, de ne pas le retirer. Si tu le retires, ça reste que toutes les caméras se braquent sur lui. Mm-hmm. Tu places un petit peu le blâme du pointage. Là. C'était 4-1 à ce moment-là. C'était pas la faute à Dobesch non plus. Finalement, je crois que ça a été la sage décision de le garder au sein de la formation. Dobesch a bien fini, mais en troisième période, il a reçu un tir. Donc, c'était pas les Sabres qui attaquaient à ne plus finir en troisième période. Mais je pense juste pour pas commencer à jouer moindrement dans sa tête, de lui dire « reste devant le filet, continue à te battre ». C'est aussi devant lui, là, le but de Jordan Greenway, Alexandre Carrier, recule. Il laisse du temps, de l'espace. Greenway en profite pour marquer. T'sais, on a parlé de Byron qui a marqué aussi, mais Rasmus Dahlin a eu combien de chances dans ce match-là? Dahlin, tout le monde connaît son talent, mais c'en est un que tu n'as pas le choix de garder à l'œil. Premier match, les Sabres ont gagné, puis Tage Thompson, Alex Tuck, Peyton Krebs n'ont pas eu besoin de contribuer sur la feuille de pointage. Donc. Mais Guillaume, par contre, pendant le match, Guillaume, lui, il a pensé immédiatement. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais
avec
Dobesch?
Parce que moi, je trouvais ça dangereux parce que si ça se poursuit, 5, 6, 7 buts, tu disais, on le connaît, ben on connaît aussi le fait que c'est pas une confiance inébranlable, là, Jakob Dobesch. Oui, il l'a bâti, mais ça, j'ai pas l'impression que ça prend grand-chose pour l'affecter. Puis là, ça déboulait vite, puis ça tournait autour de lui. Donc, je me disais, c'est peut-être une bonne idée de le sortir. Après ça, tu sais, je pense qu'il y a un moyen de le faire. Martin Saint-Louis aurait pu dire après le match, ben écoutez, devant lui, c'était pas en ordre, c'est pas lui. Mais c'est sûr que, tu sais, au niveau de la foule, ça faisait crier son nom pendant le match. Là, si tu le sors, ben t'admets un peu la défaite. Mm-hmm. Puis tu... c'était quand même une décision qui avait sa double tranchant. Puis Martin Saint-Louis a eu la main heureuse là-dedans. T'sais, Dobé, je pense, va se relever de ce match-là. Puis la défensive devant lui, moi, j'ai trouvé que souvent dans la série contre le Lightning, le Canadien se regroupait devant son filet, reculait un peu, puis laissait l'espace parce que le Lightning, je sais pas, c'était plus en périphérie, mais là, on a utilisé un peu la même tactique, c'est-à-dire de resserrer les choses devant le filet, mais ça tourne tellement du côté des Sabres, les défenseurs sont tellement actifs que ça devient compliqué là, de défendre ça. On a vu deux joueurs du Canadien, je me souviens plus qui exactement, je pense que Kirby Dack était impliqué là-dedans, mais deux joueurs sont entrés en collision en zone défensive. Tu sentais que les Sabres étourdissaient le Canadien. On leur a laissé beaucoup d'espace. Puis je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de faire pour cette équipe-là.
Il va falloir plus de pression sur ses défenseurs, probablement, à grandir un peu la boîte.
Oui, c'est ça, absolument. Mm-hmm. Là, absolument, parce que si tu te retires vers ton gardien, ben là, tu laisses le champ libre aux défenseurs qui peuvent se promener. Là, ils ne restent pas à la ligne bleue, là, eux autres. Là. Dalin peut aller en arrière du but. Byron peut le faire aussi.
Oui, Dalin, à un moment donné, qui s'est retrouvé en échappé aussi. Ils sont tellement rapides. Puis le problème, c'est que quand t'as grandi à la boîte, ben là, t'as un gros bonhomme comme Thompson qui peut rentrer dans le trou. T'as un Tuck qui est fait solide qui peut rentrer dans le trou aussi. Donc, c'est un bon casse-tête. Voyez-vous d'autres ajustements que le tricolore va devoir faire?
Bien, c'est des ajustements stratégiques, oui.
Les fins des fous.
J'ai hâte de voir si on va retoucher les trios. Slavkovski, Suzuki, Caulfield ont patiné ensemble le premier match de la série. Mais tu sais, si tu regardes contre Tampa, Martin a bougé beaucoup de ses trios, ça lui a rapporté. Hier, c'était quand même trois trios qu'on n'avait pas vus souvent, là, Newhook, Evans, Demidov, Texier, Dano, Anderson, Bolduc, Dak, Veleno. C'est possible. Moi, j'aimais bien le trio Texier, Dak et Bolduc. Est-ce qu'on peut revenir avec cette formule-là? On va voir. Mais en mode série, Martin Saint-Louis cache son jeu, puis on risque d'avoir la réponse uniquement au début du deuxième match.
Dans les 10 premières minutes du premier match, probablement. T'en as parlé un peu, mais le trio, on a parlé justement de Krebs, Thompson, Tuck, qui n'ont pas eu à avoir un apport dans ce match-là. Il y en a un qui a eu un apport, c'est Jordan Greenway. C'est un gars qu'on n'a pas beaucoup vu cette année. Greenway a été blessé, a commencé la saison vraiment en retard. Je pense qu'il y a comme 8 points dans une quarantaine de matchs. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui est là depuis longtemps à Buffalo, mais qui n'est jamais devenu le joueur qu'on espérait de lui. Quand il est arrivé du Minnesota, lui, à une autre époque. Là, je pense qu'on peut dire époque. Puis il a vécu toutes ces années difficiles-là. Puis là, il arrive, puis il joue hier un jeu à la Josh Anderson. Ça vous va-tu comme comparatif? C'est un peu ça. C'est un gars Greenway qui, peut-être justement, son style est vraiment fait pour les séries éliminatoires. Puis on ne l'avait pas encore vu en séries éliminatoires, fait que c'était difficile à voir. Mais trouvez-vous qu'il y a eu un apport hier dans ce match-là? Puis la foule lui a bien rendu, parce que quand il a compté son but, là, il y en avait du monde heureux là, hier au KeyBank Center.
Ah ben en fait, on l'avait vu en séries éliminatoires avec le Wild. Là. Il y avait J'ai quand même des souvenirs de Jordan Greenway. À l'époque, on disait la même chose. C'est un joueur qui est taillé pour les séries. Je veux
2021-22.
C'est difficile de ne pas l'être à 6 pieds 6, 231 mm-hmm. livres. Là. C'est exactement le style de jeu. Puis tu sais, lui, je pense à sa première présence ou en tout cas dans les 10 premières minutes de jeu, distribuer des solides coups d'épaule. Je me souviens plus c'était qui les victimes, mais ce sont retrouvés au derrière.
Entre autres, ouais, en première période. Non,
il y a une légère différence de poids. De gabarit entre les deux. Mais oui, Greenway, puis on a vanté son apport du côté des Sabres. C'est vraiment le travail des deux derniers trios. Hier, le trio de Benson, là, j'ai écrit mon texte après le match sur le trio de Benson, Josh Norris, puis Josh Doan. leurs 6 premières présences, c'est étincelant. Mm-hmm. C'est 2 punitions provoquées, c'est 2 buts, dont un en avantage numérique, mais quand même, Benson et Dawn unissent leurs efforts sur le but de McLeod. C'est eux qui ont causé le plus de problèmes. Puis, tu sais, quand on parle de trio d'identité, celui-là en est certainement un du côté des Sabres. On a amorcé le match avec eux. On sait exactement ce qu'ils vont nous donner parce que les trois ont la pédale au plancher, sont très, très efficaces en échec avant, en poursuite de rondelles. Fait que chez les Sabres, là, tu sais, puis t'ajoutes Greenway à ça, on est loin des Dominic James et compagnie de la dernière série là, qui se, je veux dire, on les a vus par moment, mais c'était rien de constant comme on l'a vu hier avec ces deux trios-là. Donc ça aussi, ça va devenir un problème parce qu'éventuellement, dans cette série-là, le premier trio va se réveiller. Tage Thompson, Alex Tuck vont marquer des buts. Fait que là, il va falloir que tu sois en mesure de contrer les trios de profondeur parce qu'ils ont montré hier qu'ils étaient capables de non seulement te fatiguer en défensive, mais aussi produire des buts et des points. Là. Donc, c'est une leçon à tirer du premier
match. Dans le camp des Sabres aussi, il y a Ryan McLeod comme deuxième centre qui, hier, je le regardais jouer. J'avais pas le choix de penser aux Oilers d'Edmonton qui ont choisi de le laisser partir à l'été 2024.
Un autre.
T'avais trop de joueurs de profondeur chez les Oilers pour te permettre de te laisser partir. C'est quand même des... McLeod, là, c'est un autre, c'est 3, lui aussi, c'est pesant, c'est lourd. Il y a eu un but, une passe dans le premier match contre le CH. T'essaies de comprendre qu'est-ce que Stan Bowman et les Oilers. Puis là, tu repenses aux propos de McDavid, des Draisaitl 2 ans plus tard, puis tu peux peut-être comprendre qu'il y a de la frustration.
Oui, énormément. On a beaucoup lancé la pierre à Kevin Adams, qui était le DG des Sabres jusqu'en décembre, pour certaines de ses transactions. Une où il a mangé... Une volée de bois vert. C'est l'échange de J.J. Peterka au Mammouth en retour de Josh Down et Michael Kesselring l'été passé. Combien, messieurs, de points a Peterka durant les séries éliminatoires, les 6 matchs de série avec le Mammouth? Un gros 0. Regardez le travail qu'a fait Josh Down. Regardez ce que Michael Kesselring a joué.
Sort de la formation. Non, il jouait pas hier.
C'est ça. Mais Kesselring, l'année passée, avait eu vraiment une bonne saison en Utah. Mm-hmm. Peut-être qu'on s'attendait à plus. Je pense qu'il était blessé, là, si je ne me trompe pas aussi. Il n'y a pas une saison complète de Kesselring. Mais Down fait très, très, très bien. Faut le donner à Kevin Adams. Il est allé chercher un joueur, finalement, peut-être plus séries éliminatoires, assurément, en tout cas, que Peterka. Peterka qui a eu une saison correcte en Utah, là, 47 points, mais c'est pas mal moins que ses 68 points de l'année précédente à Buffalo. Ça a été un bon coup. Ça en prend des bons coups, des fois, de temps en temps.
Oui, mais c'est l'équipe bien plus de Kevin Adams que...
C'est l'équipe de Kevin Adams,
point. Yarmo Kekalainen a fait l'acquisition de Sam Carrick, du grand Logan Stanley. Mais sinon, là, l'empreinte de cette équipe-là reste celle de Kevin Adams.
Comment il se sent à la maison présentement, là, lui, là?
Ben, il doit se dire qu'il va pouvoir se trouver un boulot aussi un jour. Là.
Lui, là...
Et il a quand même laissé une équipe en santé, peut-être plus que le nouveau DG aujourd'hui des Maple Leafs. Peut-être que son curriculum vitae est plus intéressant.
Lui il est en train de voir la blonde qu'il a eue tout le long du secondaire, d'université... puis qui est parti, qui est en train de se marier là, présentement avec son nouveau chum. Ouais. C'est un peu ça qu'il a l'impression de voir Kevin Adams. Mais bon, puis il faut donner à Lindy Ruff. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce vestiaire-là autour, parce qu'on parle tout le temps du point Kekalainen, mais tu viens de le dire, GF, il y a de quoi qui s'est passé dans ce vestiaire-là où finalement on a réussi à mettre tous les éléments ensemble alors que tout allait mal pour former cette équipe-là, puis cette équipe-là qui joue vraiment comme un noyau solide là, présentement. Cole Caulfield, vous en avez parlé plus tôt. Encore une fois, match difficile pour Cole Caulfield. C'est impossible pour lui de se signaler. Il a manqué un tir. Il a tiré à un moment donné. Il avait une chance dans l'enclave, directement dans la bédaine d'Alex Lyon. Est-ce qu'on commence à être à court de solution là, après ce début de série-là au complet là, de Cole Caulfield chez les Canadiens?
Ben, je pense qu'il faut commencer à poser des questions. Là. C'est un but... En 8 matchs pour Caulfield, quelqu'un qui en a marqué 51 cette saison. Il y a quoi? Il y a 14 tirs après 8 matchs, Cole Caulfield, si je ne me trompe pas. Il est quand même vraiment en dessous de sa moyenne, de sa cadence habituelle.
Moins 5.
On, à première vue, on pensait que le style des sabres, l'identité des sabres avec du jeu qui est quand même plus axé sur l'offensive pouvait l'aider, pouvait le relancer. Il y a un match de jouer. Ça se peut qu'au prochain match, Caulfield en marque 2, puis la tempête se calme soudainement, mais il n'y aura pas le choix de rebondir rapidement. Tu commences à te poser des questions. Caulfield reste un petit ailier. Les sabres sont grands, sont gros, sont imposants. Mais c'est un gars qui n'a jamais eu peur d'aller dans le trafic, qui n'a jamais eu peur quand même de salir le nez. Mais ça va passer aussi par Suzuki, par Slavkovski, pour l'aider à 5 contre 5. Je pense que la renaissance de Caulfield ne tient pas uniquement sur ses petites épaules à lui.
Mais là, tu le places où, là? On garde le même trio, le même premier trio, ou tout de suite, il va avec d'autres options, là?
Non, je pense que, ben là...
C'est difficile, là, parce que je ne veux pas paniquer, là, puis je veux pas tomber là-dedans.
On l'a répété
mais...
souvent que pendant les séries, t'as pas le luxe d'être patient, mais je suis encore... Patient. J'ai quand même vu plus d'ouverture. Non, mais j'ai encore vu plus d'ouverture dans le jeu hier, ce qui pourrait permettre à un Caulfield, puis à un Suzuki, à un Slav, d'avoir un impact offensif dans un match. Donc, j'essaie... Tu sais, au prochain match, je pense que je donnerais une autre chance. Mais Caulfield, tu sais, ce qui m'inquiète, c'est que c'est probablement rendu dans sa tête. Là.
Ah,
il sait qu'il n'a pas marqué. Hier, tu l'as dit, là, moi, j'ai noté début de troisième à 9 secondes. J'ai marqué Caulfield Bedon. Et là, c'est à ce moment-là, c'est 4-2 dans le match. Là. Caulfield, un marqueur de 51 buts, un 2 contre 1, une descente à 2 contre 1. Tu dois marquer à ce moment-là. Tu fais 4-3 à 9 secondes la troisième. Ça change le match au complet. Donc, c'est pas seulement qu'il ne marque pas, c'est que dans les moments où le Canadien a besoin d'un but, où il a l'occasion de marquer un but, il n'est pas capable de réussir à le faire. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus inquiétant parce que un tir dans le bedon de Josh Anderson, on en a vu plusieurs. Un tir dans le bedon de Cole Caulfield, c'est un peu plus rare. Puis des tirs qui manquent la cible de la part de Cole Caulfield, ça arrive, mais c'est plus rare. Mais en série, c'est quand même assez routinier. Fait que, tu sais, au niveau mental aussi, je pense qu'il y a un travail à faire de son côté, de se dire, écoute, on efface la cassette puis on recommence, là, parce qu'en ce moment, c'est loin d'être à la hauteur des attentes. Puis le Canadien a battu le Lightning sans l'aide de son premier trio. Mais là, plus tu avances en série, il va falloir que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs pour revenir au bon vieux cliché.
Surtout que dans l'équilibre des forces, tu sais, le Canadien a peut-être un premier trio encore plus talentueux, même si Thompson et Tuck le sont. Mais la profondeur des sabres est très bonne. Fait que, le jeu de profondeur, tu ne gagneras pas nécessairement cette bataille-là contre Buffalo. Tu as besoin de tes canons. Puis je regardais juste en termes de tirs cette saison, Caulfield, c'est 258 tirs en 81 matchs. C'était une moyenne de 3,18 par rencontre. En ce moment, il est à 1,75 par match. Donc, c'est une chute assez importante. Sauf que je suis comme Guillaume. Je lui donnerais un autre match avec Suzuki, Slavkovski, les partenaires qu'il connaît le plus. Question qui reste dans des bottines, qui reste dans ses pantoufles un petit peu, mais il faut que ça débloque rapidement.
J'étais optimiste avant cette série-là. Quand on a fait nos prédictions, j'avais dit Canadien en 7 puis tout ça. Puis là, il y a deux choses qui m'inquiètent. Premièrement, mais quand on s'était parlé, là, j'avais dit, je ne sais pas pourquoi je la donne aux Canadiens cette série-là. C'était l'expérience. C'était la seule chose qui faisait la différence. On était moins expérimentés que le Lightning. Là, il y a deux choses qui m'inquiètent. La première, c'est ce qu'on vient de voir dans ce premier match-là. On l'avait dit que les Sabres, c'était une plus grosse équipe, une équipe avec plus de profondeur que le Lightning. Fait qu'après ça, je réfléchis puis je me dis, ben pourquoi j'ai dit que les Canadiens allaient battre le Lightning? Les Sabres, alors que ça a tout pris pour battre le Lightning. Mais deuxièmement, c'est le bilan de saison du Lightning que j'ai fait. Oh, peut-être que cette équipe-là jouait pas comme à la hauteur de ce qu'elle aurait dû jouer parce qu'on a été assez direct, merci, avec... André Vasilevski envers John Cooper. Disons que Cooper, lui, a parlé des dieux du hockey quand vous y avez parlé, puis tout ça. Vasilevski, puis c'est qui? C'est Edmund, ou peu importe, je me souviens plus, qui a dit, bon, les dieux du hockey, ça fait une couple d'années, là. À un moment donné, faut jouer à la hauteur de notre talent. Donc, même chez Lightning, clairement, on considère qu'on n'a pas joué comme on aurait dû jouer. Là, si les Sabres, eux, jouent à la hauteur de leur talent, les Sabres qui, comme t'as dit, JF, c'est la meilleure équipe de la Ligue depuis la mi-décembre, Là, j'ai l'optimisme ouais, là, ben, vraiment dans les talons là, présentement ce matin.
Le Nick, t'as la mentalité d'un partisan. Là,
non, j'analyse
prendre ça.
Prendre
ça à cœur. Une défaite en série, non, c'est magnifié,
mais
c'est pas la fin du monde.
Non, mais je comprends, mais je fais juste dire, j'avais déjà des inquiétudes sur la qualité que sont les sabres avant même la série. Puis là, avec ce que le Lightning a sorti, j'ai fait « Oh, OK, attends une minute. »
Oui, mais le Lightning, c'est parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une équipe qui l'empêche d'atteindre son meilleur niveau aussi. Là. C'est John Cooper l'a répété pendant la série. Oui, on en veut plus de nos meilleurs éléments et tout ça, mais il y a une équipe de l'autre côté qui travaille pour contrer nos meilleurs éléments. Donc là, il faut prendre ça en compte aussi. Là. Le Canadien a fait des bonnes choses dans cette série-là qui a empêché les Braden Point, les Kucherov et tout ça de produire. Bon, Kucherov, on peut dire ce qu'on veut. Il était peut-être pas ultra motivé pour cette série-là, mais il reste que, tu sais, le Canadien, quand ils ont décidé de trouver une façon de contrer Brendan Hagel, qui est en train de les éliminer, les derniers matchs, ça a été plus tranquille. Tu sais, fait qu'il faut quand même lever notre chapeau à ce que le Canadien a fait, pas tout dire, bon, ben, l'équipe. Le Lightning dit qu'il n'a pas atteint son niveau. Ça veut dire qu'il aurait pu battre le Canadien facilement. T'sais. Je pense que le Canadien a fait du bon travail, qui a frustré le Lightning, puis qui a peut-être mené à ces commentaires-là aussi. Là, Vasilevski n'avait pas l'air très, très impressionné par les commentaires de ses coéquipiers, de son entraîneur. Fait que je pense que c'est le résultat. Tu viens de perdre une série émotive, c'est ce que ça donne. Si tu t'exprimes devant les médias une ou deux journées après. Là. Mais le Canadien a fait des bonnes choses. Faut quand même pas tout jeter à l'eau après une seule défaite contre...
Le bébé avec l'eau du bain?
Non, exact. Faut garder la tête froide. Puis, tu sais, je pense que le Canadien a bien fait ça jusqu'ici en série. Là, après les défaites, on a toujours rebondi avec une victoire contre le Lightning. Fait que on verra bien au deuxième match comment on va répondre.
J'avais dit, JF, tu l'as senti ça d'ailleurs dans le vestiaire hier. Quand j'ai regardé Alex Carrier quand il a parlé hier, Philippe Dano aussi, on était déjà en mode solution aussi.
Ah, oh, absolument. Puis Carrier, c'était la première chose qu'il disait. Il dit, moi, je vois déjà deux éléments de correction. Il dit, je ne vais pas les partager, mais je sais exactement où on doit travailler pour le prochain match. C'est un peu la même chose pour Philippe Dano. Tu sais, Guillaume, Nick, on a parlé de fatigue émotive, mais il y a aussi une fatigue physique. Tu venais de sortir d'une série de 7 matchs. Ça a été une bataille de 1 à 7. Josh Anderson, qui a été un train pendant 7 matchs contre le Lightning. Guillaume, c'est moins souvent se lever de sa chaise pour dire « Ouf, le train Anderson... »
Wow.
Non.
Guillaume, un peu, là, je me lève quand même pas de ma chaise.
Guillaume, j'exagère. Guillaume n'a pas de côté partisan, pas du tout, mais quand Anderson est sur la glace...
Je fais des effets sonores quand Anderson prend son élan vers quelqu'un.
Il me fait un petit bruit de chou-chou là, quand Anderson s'en vient.
Tu regardes, il tire la corde.
C'est que la grosse mise en échec s'en vient. Exact. C'est comme l'appréhension de la mise en échec, mais hier...
Il y avait peut-être une fatigue aussi physique pour Anderson, mais même, je me souviens d'une mise en échec où Anderson patine, comme on l'a vu souvent contre le Lightning, puis arrive dans le coin, puis c'est contre Mathias Samuelsson qui a 229 livres. Samuelsson est à peine bougé. Donc, tu sais, ils sont gros, les sabres. Ils sont très, très gros et grands. Il y a plusieurs troncs d'arbres, donc c'est pas facile à déraciner le sabre de Buffalo.
Puis comme notre ami Michael Winslow dans Police Academy vient de nous dire, Guillaume, il n'y a pas la référence. Toi, tu l'as, JF, la référence?
Oui.
Hein? Okay. Tu vas écouter une couple de Police Academy, mon Guillaume, tu vas savoir c'est qui Michael Winslow. Un spécialiste des effets
sonores. Ça n'a pas bien vieilli, ça, Police
Academy. Des effets sonores avec la bouche, comme tu fais, avec le train, Josh Anderson.
Le train de 5 heures.
Le train de 5 heures. Mais comme
Michel
t'as parlé
Therrien aussi était un spécialiste des effets sonores.
Ah oui?
Not impressed.
Not impressed. Mais comme tu as parlé souvent dans la série pour le Lightning, où tu disais le Lightning, il est physique, mais il joue pas bien. Tu comprends? Hier, les sables, il n'y avait pas de chamaillage après le sifflet. On économisait nos énergies. On jouait juste gros dans les limites du jeu. Mm-hmm. Fait que là, en plus, si tu vas pas attraper des pénalités, ce qui va dérégler tes trios, déséquilibrer tes trios, parce que quand tu es en désavantage numérique, ou même à 4 contre 4, là, peu importe, ça déséquilibre un peu tes trios. Si en plus, tu peux rester comme ça, tu sais, c'était un bon match. C'était un match où, justement, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à analyser du côté de Martin Saint-Louis.
Bon, moi, je m'attends à ce que l'intensité grimpe un petit peu pour le deuxième match.
C'est ça. Ben, il faut
quand même tranquille, point de vue robustesse.
Tu te souviens à Montréal avec une autre défaite de 3-1, 4-2. Là, ça sera pas beau. Donc, vous avez entendu. Moi, si j'avais, moi, si je pouvais, je changerais ma prédiction dès maintenant. C'est pas votre cas. Ben, toi, Jeff, t'avais Buffalo.
Oui, mais je suis le même gars qui a eu un gros 2 en 8 au premier tour.
Ah, c'est ça. Mais là, Nick, si le Canadien gagne le deuxième match, tu rechanges ta prédiction pour dire Canadien?
Ben, regardez, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça.
Là, si Nick, ma prédiction... en ce moment, tu me fais penser à Phil. T'sais, on va faire une petite parenthèse. Notre collègue Phil.
Phil, il a enlevé ses drapeaux. Là, son
Phil qui, pendant un même match, quand il vient au Centre Bell, remplace de temps en temps, pendant un même match, peut te dire « Ah, oh, Nick Suzuki, il est tellement mou. Ah! » Ça n'a aucun sens. Puis 4 minutes plus tard, Suzuki, il va gagner le Frank Selke. Aucun doute. Il est tellement bon. Donc, tu sais, ça on passe de gauche à droite assez rapidement.
J'ai un ami,
on salue sa belle-mère aussi.
J'ai un collègue, Louis-Simon Gauthier, du côté de Radio-Canada, qui est comme ça aussi. Là, que, écoute, une présence est une montagne russe d'émotions pour lui. Donc, imagine un match complet. Mais ce que je m'en ai dit, c'est...
Excuse, Nick.
Est-ce que vous me permettez de changer ma prédiction?
Non.
Non, mais si j'ai tort, imaginez à quel point vous allez pouvoir rire de moi. Je vous laisse cette lousse-là. Là. Pensez-y.
Vas-y.
OK.
Vas-y.
Je vais dire Buffalo en 6. Je change.
Ça, c'est exactement ma
prédiction. T'avais Canadien en 7?
J'avais Canadien en 7. Puis là, je vais aller avec Buffalo en 6.
Tu t'alignes sur GF. Fait que c'est quand
même... T'avais Buffalo en 6, GF? Hein? Ouais. Bon. Je vais y aller. Je suis désolé, les gens à la maison. Puis c'est une question de ce que je vois, ce que je voyais avant la série. Puis mon point numéro un était l'expérience. Puis là, j'ai vu le match d'hier. J'ai fait « Oh, attendez, là, ça sera pas ça la différence. » Mais bon, au final, il est trop tard. Quand on va compiler les stats, ça, si moi puis Jeff, on l'a pas...
n'est jamais dans le trouble avant d'avoir perdu à la maison, Nick.
C'est un fait. Alors, tu restes du côté des Canadiens, Guillaume, si je comprends bien?
Ah, ben là, c'est fait. J'ai donné ma prédiction.
Je respecte ça.
Je la maintiens.
Bon, moi, je suis correct parce que si jamais je perds, finalement, ben j'ai GF aussi qui perd en même temps que moi. Donc,
Ouais, mais moi, je suis moins girouette que toi. Là. J'ai pas été
non,
de 6 prédictions pour essayer d'avoir la bonne.
J'ai juste analysé ce que j'ai vu hier, ce que je voyais avant la série, puis je vais grimper sur le toit d'une grange, puis je vais aller virer de côté un petit peu pour ça. Désolé les gens à la maison, c'est mon analyse présentement. Bon, alors, ça se poursuit, la série, demain, vendredi soir, toujours du côté du KeyBank Center. Ensuite, ça s'en vient à Montréal dimanche, donc vous allez suivre ça. Les gens vont pouvoir lire tous vos textes, tout ça sur lnh.com. Puis on va se parler après le troisième match. Les gars, remontez un petit peu, là. Traverser la frontière, monter jusqu'à la 401 et Toronto. Les Maple Leafs qui remportent la loterie du repêchage, la loterie. Guillaume, tu vas pouvoir nous le dire, c'est toi qui connais beaucoup plus les espoirs que nous, là. Mais la loterie Gavin McKenna, ça semble être ça. Je pense que de toute façon, on va y aller avec Gavin McKenna, le bon vieux Canadien, par rapport à Ivar Stenberg, probablement, là, du côté des Maple Leafs. Mais cadeau tombé du ciel pour John Shaker, qui, on a appris récemment, est propriétaire de quelques Tim Hortons du côté de la Mauricie aussi. Un article que j'ai lu, donc un petit pied au Québec du côté de John Shaker. Mais surtout, Matt Sundin, John Shaker, la nouvelle organisation, leur conférence de presse a tellement été difficile. On a tellement dû défendre cette embauche-là. Et soudainement, en l'espace de 24 heures, la page est tournée, on a le premier choix. Tu peux pas arriver dans un poste avec un aussi beau cadeau que ça. Ça arrive jamais. C'est pas vrai. C'est arrivé à Mathieu Darche l'année passée. Donc, je retire absolument ce que je viens de dire. Mais c'est ça la réalité. Un Matthew Schaefer, regardez l'impact qu'il y a eu pour les Islanders cette année. Gavin McKenna peut avoir le même impact aussi si tout se déroule bien. Toi, t'as pas de l'ISER. Oui, mais en même temps, Guillaume, là, je te regarde, oui, t'as pas de l'ISER, mais en même temps, souviens-toi ce qu'on disait sur Schaefer après date l'année dernière. Là, on se demandait s'il allait jouer dans la Ligue nationale cette année.
Ouais, donc, mais donc, tu regardes je sais pas à quel point, oui, il y a Austin Matthews, est-ce qu'il va être là au début de la prochaine saison? Mais tu regardes un Connor Bedard, ça a quand même pris un peu de temps. C'est un joueur qui était un peu du même gabarit, un peu plus petit. Tu sais, Gavin McKenna, pour l'avoir vu au championnat junior, sans ses épaulettes, c'est pas... Il y a beaucoup de talent, là, mais la marche va être quand même assez grande là, entre la NCAA puis la LNH. Je m'attends pas à un impact incroyable à sa première saison. Il va être très bon, mais j'ai de la misère à voir comment, tu sais, je voyais des partisans des Maple Leafs en ligne, là, commenter, mettre en ligne la formation de cette année, ajouter Gavin McKenna et dire « c'est une équipe de série ». On n'ira pas jusque-là. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de trucs à régler du côté de Toronto. Puis je pense pas que c'est un McKenna qui va régler ça en un claquement de doigts.
Ça dépend parce que la différence entre Bédard, qui est arrivé à Chicago avec personne autour de lui, puis McKenna qui peut s'intégrer. C'est ça la question que je vais vous poser.
À quoi, tu sais?
Vous êtes John Shaker, vous êtes Matt Sundin, vous arrivez. C'est quoi votre stratégie à partir de maintenant?
Mais c'est un
si la porte est ouverte, si Austin Matthews laisse la porte ouverte à une transaction, dit « je vous laisse décider », son contrat à Matthews, il reste quoi? Il reste 2 ans, là, Matthews. Là. T'as Nylander, t'as Matthew Nice, t'as... C'est pas une... Si ça fait pas la baboune, puis t'ajoutes Gavin McKenna, c'est pas une mauvaise équipe, si tu peux un peu renflouer ta défensive. Là.
Non, mais tu sais, juste sur papier, tu te dis « OK, pour 2026, on obtient le premier choix, le premier de classe qui sera... Gavin McKenna ou Stenberg, le Suédois. Mais si tu veux vraiment y aller d'une reconstruction, d'une philosophie, d'une approche différente avec John Shaker et Matt Sundin, mais tu as besoin de tes choix de premier tour de 2027 puis 2028. Le bobo, c'est que là, maintenant, les choix de premier tour, théoriquement, deviennent non protégés. Est-ce que tu échanges uniquement Matthews pour quelques choix? Un bateau d'espoir, mais là, si tu échanges Matthews à une bonne équipe, ton choix de premier tour va être entre 20 puis 32. C'est pas là que tu te relances complètement dans une reconstruction. Est-ce que tu t'organises pour relancer Matthews, pour voir Matthews à 50 buts comme on voyait dans le passé, mais est-ce que ça va revenir un jour? Ça, faut que tu te poses la question. C'est pas un assemblage facile. Puis on parlait avec le collègue Mike Zeisberger qui travaille pour notre site anglophone. Mike disait, lui... Il s'attendait bien plus au scénario de voir les Maple Leafs ne pas gagner la loterie, mais une équipe derrière monter d'un rang. À ce moment-là, Toronto aurait perdu son choix de premier tour cette année. C'est un choix qui était protégé uniquement top 5. Les Bruins auraient parlé à la place des Maple Leafs au premier tour, donc ça aurait changé bien des choses. J'ai hâte de voir, mais je ne pense pas non plus que McKenna est le sauveur demain matin pour les Maple Leafs. Il y a beaucoup trop de trous à commencer par la ligne bleue des Maple Leafs.
Sans être le sauveur, reste que. Ben, je vous mets ça. Macklin Celebrini est arrivé à San Jose.
Ouais, mais je pense que Celebrini a plus de caractère sur une glace que McKenna. Je veux pas parler à travers mon chapeau, j'ai pas vu assez de matchs. J'ai trop en tête le championnat du monde.
Ouais,
il faut
ben,
pas juste juger le championnat du monde.
C'est tellement difficile d'évaluer la saison de McKenna. Parce qu'il est arrivé dans NCAA, ça a mal parti, ça a terminé vraiment en force. Par contre,
ouais.
Championnat junior qui n'a pas été un succès versus Celebrini. Celebrini, lui, est arrivé dans NCAA, puis ça a été plus linéaire. Mais il est arrivé là à 18 ans, c'était ça le plan. Je me demande à quoi ressemble la saison de Gavin McKenna s'il reste avec Medicine Hat dans la Ligue d'hockey de l'Ouest.
150 points.
C'est ça, il fait 150, 180 points, peu importe, tout ça. On n'aurait pas le même discours. Parce que, Guillaume, depuis quand on parle de Gavin McKenna, là, ça fait des années et des années qu'on le voit comme le prodige, le prochain,
ah,
avec comme Connor Bedard était. Là. Mais là, t'arrives...
Il y a quand même des doutes sur son sens de la compétition. Je pense que tu le compares à McLean Celebrini. Je pense que c'est ça la différence majeure pour l'instant. Là, tu sais, Celebrini, il avait pas vraiment de doute dans l'esprit des gens, peu importe s'il avait fait 30 points ou 160. Tu vois, on dirait que tu peux voir qu'un joueur a la bonne approche, la bonne mentalité, joue la game de la bonne façon, pour reprendre les mots de Martin Saint-Louis. Mais je pense que c'est surtout ça qui cause le doute là, dans le cas de McKenna, c'est que tout au long de la saison, je pense que les recruteurs ont vu des hauts et des bas dans justement son implication dans le jeu, dans sa compétitivité et tout ça. Fait à partir de là, oui, il y a le talent. Est-ce qu'il y a la mentalité, la bonne approche pour l'exploiter à 100% dans un niveau où ça va être difficile? Là, ça ne viendra pas facilement, les points. Là. Il va falloir qu'il travaille pour les obtenir.
Comme il est arrivé, comme à son arrivée dans la NCAA cette année. Là.
Exact. Je ne m'attends pas à une transition facile. Puis après ça, ben, McKenna peut arriver dans la Ligue nationale puis avoir la super bonne attitude et tout ça, puis commencer à faire virer le vent de côté, du côté de Toronto. Mais tu sais, les doutes, je pense qu'ils sont légitimes par rapport à justement tout ce qui entoure le talent, il n'y a pas de question. Tout ce qui entoure, est-ce que McKinnon va être capable de bien l'exploiter avec tous les éléments externes, là, son sens de la compétition et tout ça? Bien, ça reste à déterminer.
L'autre grande question, là, si on veut continuer à faire du pouce sur Celebrini, McKenna, c'est l'environnement. Celebrini se retrouve à San Jose, McKenna débarque dans Marmite à Toronto.
Mm-hmm.
Il y a un petit peu plus de pression à
la
Toronto.
La Marmite bouille.
Qu'à San Jose. Oui, elle bouille, puis elle bouille solide.
Ouais.
Puis là, avec le nouveau régime, le couvercle est encore sur le chaudron. Là. Ça continue de bouillir assez fort.
Ouais.
Là, l'autre possibilité qu'on n'a pas parlé, là, ce choix-là, mettons que tu l'inclus avec Austin Matthews dans une transaction, est-ce que tu peux aller chercher... Mais non, mais est-ce que les Maple Leafs veulent s'engager dans une reconstruction de 4, 5, 6 ans? Ou est-ce que les Maple Leafs veulent un reset sur le fly?
Si tu fais ça, cet échange Matthews est ton premier choix, oui, tu vas obtenir gros, mais tu n'as toujours pas ton premier choix. Donc, si tu coules dangereusement au classement,
moi, je parle d'une transaction hockey pour obtenir des joueurs qui peuvent aider l'équipe en ce moment.
Non, mais là,
avoir un bundle de joueurs d'impact pour faire un reset. Avoir deux, trois éléments dans ton équipe l'an prochain que tu sais exactement ce qu'ils vont te donner. C'est une autre option. Je pense pas que ça va arriver, mais...
Moi, je pensais que tu voulais ce package-là, Matthews et le premier choix contre Connor McDavid. Je pensais que c'est ça que tu allais dire. Mais moi, je fais pas ça.
Ça règle absolument rien. Là. On a vu McDavid à Edmonton. Il n'est pas plus entouré, il ne serait pas plus entouré à Toronto, il ne peut pas mener l'équipe à la Coupe Stanley à lui seul.
C'est le rêve d'avoir McDavid à Toronto. Là. Je veux dire, c'est le rêve depuis tellement longtemps. Mais
tu vas vendre des billets, mais tu gagneras rien. Là.
Mais moi, je ne fais pas ça. Puis, de toute façon, c'est quand la dernière fois qu'une équipe a échangé le premier choix au total, là, même si ça aurait été avantageux pour elle.
J'aimerais ça un peu de chaos. Là.
Toronto, tu vas en avoir du chaos à Toronto. Puis comme tu disais, tu soulignais, on a des doutes sur le niveau de compétitivité de McKenna qui s'ajoute à une équipe où le plus gros doute depuis plusieurs années est le niveau de compétitivité. Ouais. Tu comparais avec Celebrini, qui est à San Jose où il vit chez Joe Thornton, où on est vraiment comme en mode construction de bâtir des gagnants. Mais ça se fait étape par étape, alors qu'à Toronto, on veut tout de suite avoir le gagnant. Puis si tu ne l'es pas, ben tant pis, parce qu'on ne sera pas capable d'améliorer cette qualité-là. On ne l'a pas fait avec les autres. C'est sûr que la marche est pas mal plus haute là, pour McKenna.
C'est juste que je me dis, mettons que les recruteurs des Leafs sont pas convaincus de Gavin McKenna. Est-ce que tu veux être l'équipe qui ne repêche pas Gavin McKenna puis finalement, il devient bon ailleurs en étant repêché deuxième, troisième à ce repêchage-là? Ou est-ce que tu te libères du problème en essayant d'y aller pour la grosse transaction?
Ils vont le repêcher. Je suis sûr et certain qu'ils vont le repêcher.
Ça fait un peu d'action, parce que tu sais, Nick, le repêchage...
As-tu vu le sourire de Matsonen? Il était heureux.
Oui, mais ça reste... t'es heureux d'avoir un atout.
Ben oui, je le sais.
Après ça... Mais c'est juste pour mettre un peu de piquant au repêchage, parce que le dernier repêchage, il n'y a pas eu beaucoup d'action. Fait que je me dis, là, on revient à Buffalo au mois de juin. On veut avoir un peu de drama à couvrir ici, là. Exact.
Tu vas être à côté de Toronto en plus, donc le drama, ça va être bleu là, dans les estrades, là, ça va être bleu à peu près. C'est l'autre point aussi, là.
Imagine le scénario, Nick.
Non, mais le nombre de personnes.
Toutes les fans des Maple Leafs dans les estrades, et là, Gary Bettman, avant le premier choix, dit we have a trade to announce, et là, Austin Matthews, le premier choix, s'en va. Moi, ça ferait notre journée de travail au complet.
Il n'y a pas une équipe qui peut payer Matthews et le premier choix. Faudrait que tu donnes la banque. Puis de toute façon,
tu changes ton plan au complet.
C'est ça. Puis de toute façon, au nombre de monde qui vont se déplacer de Toronto pour te voir repêcher au premier rang, Tu peux pas faire ça. Sinon, ça va être aussi mauvais que le script du film Draft Day, là, le repêchage avec Kevin Costner. Ça va juste être aussi pire que ça.
Non, mais Buffalo reste une ville à découvrir aussi. Là. Même s'il n'y avait pas le premier choix, les partisans de Toronto vont pouvoir visiter ouais, les alentours, le centre-ville, le tramway.
J'ai le sentiment qu'à travers les années...
Allen Street. C'est... Même la presse, il y avait un reportage, 5 endroits à visiter à Buffalo. J'ai trouvé très bon de se rendre à 5, mais c'est une autre question.
C'est Guillaume Lefrançois qui a écrit ça, j'imagine?
Non, mais c'est probablement sous recommandation de Guillaume. Ben oui, Guillaume les connaissait par cœur. Puis il y a une grande délégation ukrainienne aussi à Buffalo, un des bons articles de Guillaume des dernières années. Buffalo connaît tout. Guillaume connaît tous les recoins.
Connaît tout de Buffalo.
De Buffalo.
Tout, exact. Hey, les gars, on va mettre un terme à ce balado là-dessus. Merci d'avoir été là un matin en direct, justement, de la reine du Upstate New York, du nord de l'État de New York. Comme je disais plus tôt, vous continuez. Vous en allez à la pratique des Canadiens, pratique des Sabres. Donc, il va y avoir des textes disponibles à lire sur lnh.com. Ça se poursuit pour le match demain, pour la suite. Nous, on va se reparler lundi prochain. Lundi matin, on va se reparler pour faire le bilan du deuxième match, mais surtout du premier match à Montréal, en espérant pour les gens de la ville, les gens de Montréal, là, que les Québécois qui nous écoutent, les gens aussi en Europe qui nous écoutent, qui sont des partisans des Canadiens, que ça ne sera pas 3-0 dans la série.
La girouette.
Non, mais comme j'ai dit, en 6, ça prend des victoires des Canadiens. Je suis pas mal sûr qu'il va en avoir une dans les deux.
Moi, j'aimerais remercier aussi mon éclairagiste pour le balado aujourd'hui.
Donc, mets ça dans les crédits à la fin du podcast.
Guillaume, toutes les éclairage. Semaines, maintenant, t'es obligé d'aller chez Chaumont à
je vais l'appeler le machiniste jusqu'à la machiniste. Fin. De...
mais là, il va falloir le syndiquer. Ça va être difficile un peu, puis ça va coûter pas mal plus cher.
On peut parler à Matt Doug, voir les conseils.
Ses cartes, puis tout ça. Hey, merci les gars d'avoir été là. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.